RCV 99, on est toujours boulevard Carnot pour la seconde édition de la Venus Place Tattoo Convention et on est avec
Nino, le manager de Freaky Family.
Eh ben bienvenue.
Bonjour Nino.
Merci.
Comment tu vas?
Bah écoute, ça va, et toi?
Bah écoute, ça va. Ça me fait plaisir de te voir ici.
Bah ça me fait plaisir de vous voir aussi.
Alors, parce que nous on se connaît.
C'est vrai, ouais.
On se connaît quand même depuis pas mal d'années.
Depuis quelques années, ouais.
On a des passions communes.
Ouais, c'est vrai, Habib.
Ça craint du cul, patron.
Exactement.
Et voilà. Et si jamais tu devais te présenter pour ceux qui te connaissent pas, qui es-tu?
Que fais-tu?
Que fais-tu? D'où viens-tu?
D'où viens-tu?
Alors du coup, bon, donc moi c'est Nino, je suis manager à la Freaky Family, donc un shop historique de tatou dans le centre de Lille. Du côté de Répu. Ça fait quelques années que je traîne mes guêtres sur l'île et dans le milieu du tatou accessoirement. Donc là à peu près 5 ans que je traîne dans ce milieu-là ici sur l'île. Et j'ai repris la Freaky récemment, très récemment, il y a à peu près 2-3 mois. Et voilà, globalement, là c'est ce qui absorbe toutes mes journées en ce moment.
Ah, tu m'étonnes. Et donc la Freaky, c'est combien de tatoueurs, combien vous avez de personnes? C'est...
Alors là, on commence à être pas mal. Actuellement, on a 8 résidents, 2 apprentis, une perceuse et moi par-dessus.
Et voilà. Tout par-dessus.
Et des guests réguliers. Et puis on commence à faire venir aussi pas mal de monde d'un petit peu plus loin. Aussi, là, dans pas longtemps, on a trop, notamment un Italien, un tradeux italien qui va venir tatouer chez nous, ça va être cool.
Et si, par exemple, les gens qui nous écoutent, ils ont envie de se faire tatouer, quel type de tatou on peut retrouver à la Freaky, du coup?
Alors, à la Freaky, c'est quand même pas mal orienté black work, plusieurs ouais. styles de black work, donc du figuratif, même parfois à tendance un peu réaliste, comme ce que peut faire Sixat, par exemple.
Ouais.
Jusqu'à l'abstrait complet, comme ce que Amy, une des choses que Amy peut faire, et trad. Traditionnel et néo. Trad, néo-trad.
Ouais, new school, old school.
Plutôt vraiment orienté néo-trad, on a vraiment les influences du trad américain, du trad japonais, néo-jap.
Ouais.
C'est un peu une grande famille, mais finalement dans le tatou, c'est un peu comme en musique. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu vas avoir les grandes familles. Et t'as une infinité de sous-genres qui sont faits, dont on utilise les nomenclatures que entre diggers, tu vois. Ouais. C'est comme quand tu parles de black metal, tu dis ouais mais ça c'est du trou norvégien ou
ça c'est du québécois,
la new wave of American black metal. Et tout, ouais. C'est des trucs de spécialistes un peu.
Ouais.
Mais les grands styles, ça va être black work et trad néo trad.
T'avais peut-être une question Marie?
Bah non, ouais. Juste
acquiescer. Ok. Ben, non, je sais pas.
Si t'as une petite question. Moi, tu parles un jargon que je ne connais pas. Je ne suis pas dans le milieu du tatouage. Je n'ai d'ailleurs aucun tatouage.
Pour le moment.
Pour le moment. Non, mais. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que je me suis souvent posé la question. On m'a d'ailleurs aussi souvent posé la question. Tu sais, quand t'es dans la musique, que tu traînes avec des métalleux ou autres ou machin et tout. Il y a un peu une espèce de tradition du tatouage dans le milieu de la musique. Moi, pas du tout. C'est pour ça que quand tu parles de trad, je n'arrive pas à me représenter ce que ça peut être du trad et encore moins du néo-trad. Est-ce que tu pourrais imaginer ça un peu plus?
Tout à fait. Alors en fait, ce qu'on appelle le trad, simplement, c'est ce qui va être tous les motifs qui étaient habituellement portés par les marins, les militaires. Donc c'est vraiment les vieux motifs, ce qu'on appelle le American Old School.
Okay.
Donc tu vas retrouver les ancres, le cœur avec la banderole, avec le nom d'une nana, de ta mère, de machin.
Les hirondelles.
Ça, voilà, les hirondelles. D'ailleurs, fun fact, c'est pas des hirondelles, c'est des martinets.
Okay.
À la base, d'ailleurs. Et le néo-trad, du coup, découle notamment du trad américain, mais aussi du traditionnel japonais. Donc là, c'est traditionnel japonais, ça parle... Ça parle de soi-même, c'est vraiment les gros dragons, les geishas, machin, etc.
Ouais, les trucs portés par les yakuza.
C'est ça, exactement. Et le néo-trad, c'est un style à la base qui va s'inspirer notamment du trad américain et du trad japonais, et aussi beaucoup de l'art nouveau. On retrouve énormément de références à l'art nouveau, à l'art déco, au modern style, dans ce type de tatou. Et après, néo-trad, c'est devenu un terme un peu fourre-tout aussi, où on met plus ou moins tout ce qui a des lignes à contour épais et de la couleur à l'intérieur.
Ok.
Voilà.
Donc si, si ce n'est pas une hirondelle et que c'est un martinet, si je me fais tatouer un martinet, pas l'oiseau, mais tu sais, le martinet, tu sais, avec lequel on se met
là,
des
fesses. C'est très cool.
Ça ferait genre une private joke de tatoueur un peu, tu sais.
Là, c'est complètement une méta joke de tatoueur.
Ah ouais, c'est putain. Genre blague, ça me plaît comme tatouage, tu vois.
Blague d'initié premier degré.
Moi, j'interviens quelques instants. T'as le bonjour de Alex. Hein, je lui ai envoyé un message. Il me dit qu'il te passe le bonjour.
Eh ben, salut Alex. Et merci de m'avoir repassé le flambeau parce que Alex était manager de la Friquille
voilà,
à l'époque.
Voilà, tout à fait. Ouais. Okay, alors, parlons de. On parlait de tatouages traditionnels, les encres, les machins, les trucs portés par les militaires, les tatoueurs. Quand est-ce que s'est fait la bascule, on va dire, des gens, des tatoués spécialisés vers les tatoués, on va dire, grand public? Est-ce qu'il y a une, je sais pas, une décennie, un truc qui s'est passé
Il y a clairement une décennie. En tout cas, en Europe occidentale. Ouais. Il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, donc Angleterre, Irlande, Écosse, États-Unis, il y a un truc qui est quand même assez différent, c'est que leur vision du tatou était vachement plus ouverte. Oui. En tout cas, en Grande-Bretagne. C'est dû à un simple fait historique, c'est que pendant le 19e siècle, en Angleterre, les classes supérieures se faisaient beaucoup tatouer. Les blasons de leur famille, etc. Et du coup, c'était vu comme quelque chose de vachement plus acceptable. Et du coup, ça a fait que bah, y a eu ce truc où on se disait, bah, quand tu vas en Angleterre, tu vois un punk à ton guichet de banque, il a une crête, des tatous, niveau look, ils sont vachement plus détendus. Chez nous, en tout cas en France, c'est venu plutôt dans les années 90, fin 90, début 2000, où là ça a commencé à exploser, notamment via le milieu techno, où on a commencé à voir les fameux tribaux,
la free party,
le néo-tribal qui était inspiré de Bornéo, du tatouage polynésien, etc.
Ouais.
Ça a un peu poussé ce truc-là en avant, sur le devant de la scène. On a commencé à voir de plus en plus de boutiques dans les grandes villes. Et l'explosion, vraiment, elle se situe autour de 2010-2015, où là, ça a vraiment explosé. Et on a assisté à une hyper-spécialisation aussi des artistes dans des styles bien particuliers. C'est-à-dire qu'on a commencé à quitter un peu ce truc où quand t'avais un tatoueur, il savait à peu près tout faire. Il faisait du réalisme, il faisait du traditionnel, du new school, du néo-trad, du tribal.
De street shop, pardon.
C'est
ouais.
Ça, il y avait cette tradition du street shop où tu savais que tu pouvais te pointer, demander tout et n'importe quoi, et on te dirait oui. On a quitté un peu ce truc-là. Pour les meilleurs comme pour le pire, comme pour tout, il y a du bon et du mauvais dans tout. Et maintenant, on a vraiment assisté à une hyper spécialisation des artistes qui fait que tu peux vraiment avoir des trucs extrêmement pointus.
Mais est-ce qu'elle n'est pas due justement à la multiplication des demandes des clients sur des choses auxquelles les tatoueurs n'étaient pas habitués ?
Ça a beaucoup joué.
Les couleurs, par exemple.
Ça a beaucoup joué pour l'hyper spécialisation. Et le truc, c'est qu'il y a eu aussi une réponse. Face à ça, c'est comme le métier est sorti de l'ombre, ça s'est popularisé.
Ouais.
Donc il y a beaucoup plus de monde qu'avant qui a envie de devenir tatoueur. Et comme pour tout, c'est pour le meilleur comme pour le pire, pire parce qu'il y a des pépites qui sortent dans tous les sens. Et franchement, moi je suis plutôt content que ça se passe comme ça parce que ça permet de mettre notre métier sur le devant de la scène. Ça permet de faire en sorte qu'il soit pris au sérieux aussi. C'est plus juste un truc de loubar ou de communauté alt, comme nous on pouvait l'être. Moi j'ai toujours fréquenté ça parce que j'étais métalleux.
Ouais.
J'ai toujours vu des gars tatoués. Dans les milieux alt, on est très habitué à ces trucs-là. Là aujourd'hui, si tu travailles dans une grosse boîte, il y a 80% de chances pour que ta DRH elle soit tatouée.
Je prends mon exemple. J'ai un poste dans une grosse boîte à responsabilité, je suis cadre, je vais au boulot, j'ai mes tatous apparents, j'ai mon piercing à part, enfin mes piercings, mes écarteurs et tout, et c'est pas pour autant que mon PDG, par exemple, qui est en face de moi, qui peut être en costard, il va pas m'écouter et pas me prendre au sérieux. Alors qu'il y a 10-15 ans en arrière, on regardait de haut en bas, t'es qui, enfin, c'est vrai.
J'ai encore une question pour toi. Les footballeurs regardent les matchs de foot des autres équipes. Les cuisiniers regardent Top Chef. Est-ce que les tatoueurs regardent les émissions de tatouage sur les chaînes ou sur lesquelles elles sont diffusées?
Alors, les fameuses émissions de tatou.
J'ai juste une aparté à faire là-dessus parce que Ink Master, par exemple, tu vois, cette émission avec
les fleurs.
Avec Navarro, là, le mec, c'est Navarro, non, je sais plus, le présentateur.
Ils font des fleurs.
Oui, ils font des fleurs, ouais. Non, je parle pas de Tattoo Cover, mais tu vois, l'émission américaine, c'est vraiment. Enfin, Ink Master, c'est là où, en fait, ce qui me plaît dans cette émission, parce que je la regarde de temps en temps, et ce qui peut me plaire et qui peut me faire vraiment accrocher, c'est ce côté un peu street shop. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils ont un thème et ils savent presque.
Allez,
tout
bim,
faire.
Ouais, t'as 3 heures pour
obligé.
Le faire.
En fait, c'est tu vas faire du néo-trad, tu vas faire du réalisme, tu vas faire du black work, tu vas faire.
Comme dans Top Chef.
Ouais, comme dans Top Chef.
Ils sont obligés d'exceller en fait dans tous les styles. On leur demande de savoir gérer tous les styles.
Alors,
en fait.
Des fois, c'est comme tu disais, des fois, c'est moins bon. Donc, du coup, en fait, ils votent pour le meilleur du pire. Mais
et ça, moi, ça me fait un peu rire parce que du coup, tu regardes un peu ce genre d'émission en mode ah putain, lui c'est bof, alors qu'en fait, le tatou déjà c'est de base clair. Il est super bon.
Alors,
le
ton
tracé,
avis, justement,
on peut pas être bon dans tout, clairement.
C'est sûr,
alors,
ouais, c'est clair.
Je suis pas le meilleur client de ce genre d'émission. J'avoue que j'ai dû tomber dessus une fois ou deux. Je sais qu'il y a Oliver Peck dedans qui est un grand monsieur traditionnel américain que j'adore.
Il est impressionnant.
Après, je vous avoue que les autres, je connais pas trop. Je connais le principe de l'émission, évidemment. La seule doléance que j'ai par rapport à ça, c'est que, alors oui, c'est cool, c'est divertissant,
ouais.
Clairement. La seule différence avec Top Chef, Top Gear, tout ça, tous les trucs où on impose une limite de X temps pour faire quelque chose, c'est que à la fin de Top Chef, au bout de tes 3 heures, si ton plat il est imbouffable, on s'en fout, on le fout à la poubelle.
Alors que là,
alors que dans Ink Master, si au bout de 3 heures, le truc que t'as dans la peau c'est dégueulasse,
c'est clair.
C'est vachement plus difficile de s'en débarrasser.
Ouais, c'est clair que des fois quand on voit le résultat, on se dit merde.
Que déontologiquement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Au niveau du divertissement, par contre, je comprends complètement pourquoi ça fonctionne.
Ouais.
Et à la fois, tu te dis aussi que finalement, les personnes qui participent à ce genre d'émission et qui donnent un morceau de leur peau, ils savent très bien qu'à n'importe quel moment, ça peut être
bien sûr
pas mauvais, mais que ça peut être moins bien que ce qu'ils avaient espéré en fin de compte.
Tant que tout le monde est consentant, c'est ok. C'est
ouais,
juste...
voilà.
Moi, le seul truc, c'est que c'est pas ma manière de voir le truc, mais forcément, parce que quand t'es dans quelque chose et que tu l'aimes autant, quand t'es dans un corps de métier que t'aimes autant, t'as tout le temps envie que tout soit le mieux possible. Alors c'est pas possible que ce soit toujours parfait, mais du coup c'est moins ma cam.
Ouais, non, mais je comprends. Moi c'est pas trop le genre d'émission sur lequel je vais, mais en fait ce qui me raccroche un peu à cette émission, c'est vraiment le type vraiment street shop. Où en fait on en revient aux origines du le tatoueur normalement c'est tout tatoué. Si on pousse la porte de ce tatoueur et que tu veux faire un portrait, si t'as envie de faire du trad, si
ouais,
t'as envie de faire du black work,
finalement,
le mec il est censé pouvoir le faire et c'est ça en fait que ça ramène. Et c'est, ouais, après c'est le divertissement, après bon.
Ouais. Ouais, finalement cette vision elle est fort américaine parce que quand tu regardes les tatouages traditionnels japonais, ils savent pas forcément tout faire. Hein. Ouais. C'est du traditionnel japonais. Ouais. Ça fait pas street shop en fait.
Oui, d'accord.
En vrai, le street shop où tu faisais de tout, du trad américain, du trad japonais, du réalisme, des petits projets, etc. C'est venu. C'est pas si vieux que ça. Parce que le réalisme, par exemple, on en voit les traces qu'à partir des années 70, peut-être.
Ouais.
70-80, on a commencé à réduire les tailles d'aiguilles, on a commencé à savoir faire autre chose que du trad.
La machine évolue, ouais.
Voilà, le matos a évolué, donc on a commencé à pouvoir faire d'autres choses. Comme pour tout ce qui est fine line aujourd'hui. Mm. Aujourd'hui, on voit du tatouage fine line, de l'ornemental, des choses comme ça. Il y a 15 ans, le matos était beaucoup moins permissif. Mm. Donc ça évolue, on peut être de plus en plus pointu. Donc finalement, cette vision du street shop où le gars savait tout faire, c'est pas c'est pas un truc multiséculaire comme peut l'être le trad japonais par exemple.
Ouais. Je vois ce que tu veux dire.
En parlant de trad, j'avais une dernière petite question. Alors ça vient pas de moi, mais moi j'ai des tatouages, mais c'est par rapport à tout ce qui est tribal entre guillemets. Donc on sait qu'en Polynésie, tout ça, ça correspond à des clans, etc. Enfin, chaque clan a son tatouage, comme les Écossais avec leur tartan, ils ont un clan.
Ouais, chaque île.
Et la blague, c'était, est-ce que un Polynésien qui vient en France, il va se faire tatouer le drapeau de telle ville pour montrer qu'il est telle ville, alors que les mecs qui se sont fait tatouer l'étoile... Je sais pas, si je vais dans le Périgord, par exemple, je suis un Samoa, je vais dans le Périgord, est-ce que je vais me faire tatouer l'armoirie du Périgord?
Figure-toi que ça se fait beaucoup, les armoiries des villes.
Ah ouais?
Ça se fait énormément. Nous, ici à Lille, il y a énormément de gens. En plus, comme on est une ville très étudiante, il y a beaucoup de passages. Alors, pas le Lion des Flandres. En général, ce motif-là, il est un petit peu esquivé. Mmh. Mais il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont fait leurs études à Lille, qui ont kiffé ce moment-là, qui retournent dans leur région ou qui bougent pour le taf, etc. Qui se font une petite fleur de lys. Parce que un des symboles de la ville de Lille, c'est la fleur de lys. Et ça se fait énormément. Et ça fonctionne aussi dans d'autres villes. Hein. J'ai vu pas mal de gens avec les armoiries de Lyon, avec les armoiries de Rennes, de Nantes. Ouais, c'est ça. Celle qui bloque le port.
Ouais.
Vraie histoire, d'ailleurs.
Ouais. Non, mais l'idée, c'était se retrouver avec une armoirie d'un clan, d'un machin qu'on n'a jamais connu.
Alors, pour les Polynésiens, c'est toujours un petit peu particulier parce que c'est très ancré culturellement pour eux. Ouais. Ça a une signification, chaque île a ses codes, etc. Quand on a des demandes, en tout cas, moi, quand j'ai des demandes, j'enjoins toujours les gens à se rapprocher de tatoueurs dont c'est la tradition ou qui font partie de cette tradition-là. Alors, il n'y a pas que des Polynésiens qui font du traditionnel polynésien. On peut être accepté dans une famille, dans un clan, sans être polynésien. C'est le cas notamment d'un tatoueur italien qui s'appelle Fabio Griot, qui fait des choses très très belles, qui a été accepté dans un clan néo-zélandais. Mais j'enjoins toujours les gens à contacter des gens qui savent de quoi ils parlent.
Ouais.
Et que ce soit pour le polynésien ou pour d'autres formes de tribal, comme le tribal de Bornéo, par exemple.
Ouais, les roses de Bornéo.
Le tatou berbère, le tatou traditionnel berbère. Il y a vraiment énormément de traditions de tatouage qui existent, aussi en Europe. On voit une recrudescence en ce moment du tatouage picte, par exemple. Donc ça, c'est un truc européen qui date de l'âge du bronze, qui est très intéressant, qui est très joli. Mais il faut se rapprocher des gens qui savent ce qu'ils tatouent. Ouais. Au final, c'est comme pour les idéogrammes ou pour les kanji.
Ouais.
Si t'as pas envie de te retrouver avec un truc qui dit soupe de poulet tatoué dans le cou,
ouais,
en fait, rapproche-toi de quelqu'un qui sait de quoi il parle.
Merde à celui qui le lira.
Lingette humide.
C'est ça.
Bah écoute, merci Nino.
Merci Nino.
Avec grand plaisir.
Ça
merci
m'a
à
fait
vous.
Vraiment plaisir. Enfin, ça nous a fait plaisir de te recevoir en tout
plaisir
cas.
Plaisir partagé. C'était très cool.
Bah écoute, merci.
À
et
bientôt.
Puis, tu peux peut-être balancer l'adresse de ton shop hein, quand même, la Friki.
Friki hein. Family, 16 rue Gombert à Lille. On est juste à côté de l'arène métro République.
Impeccable. Merci à toi.
Merci à vous.
À bientôt. Au revoir.
Salut. À bientôt. Salut.
Salut.